suis papa de deux enfants. Mon objectif là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. J'ai la chance de faire déjà deux tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible et t'es capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc j'ai voulu relever celui-là. Donc Handicap Agir Ensemble, c'est le fil conducteur quoi.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marceau, produit et réalisé par Audiotactique.
C'est la plus belle course que j'ai faite.
Bonjour, je suis Anthony Lefort, membre du collectif d'entrepreneurs Cap Agir Ensemble, qui soutient Sébastien Marceau dans son projet de courir le Vendée Globe 2024. Je vous propose de vous immerger au sein de notre équipe le temps d'une course mythique, celle de la Route du Rhum. La plupart des textes ont été écrits par Régis Vian et le montage a été réalisé par Julien Fosset. Je vous souhaite une bonne course. Premier jour.
Salut à tous. Ben voilà, on est à quelques dizaines de minutes du départ de la Route du Rhum destination Guadeloupe. À bord de mon courtier énergie Cap Agir Ensemble, je voulais en profiter pour tous vous remercier pour votre implication dans le projet, notre travail en commun. Et puis voilà, maintenant, je vais faire de mon mieux.
C'est parti. C'est chaud, le départ, il y a des bateaux partout. Je charge en émotion.
Jour 2. On pourrait laisser Seb nous raconter le lever de soleil en mer d'Iroise après une nuit de veille dans un froid piquant et humide. Il pourrait aussi nous dire ses pensées devant Wessan, probablement le dernier caillou qu'il verra avant la Guadeloupe. Mais bon, il y a le dernier vainqueur du Vendée Globe qui va croiser pas trop loin devant. Ce n'est pas le moment de mollir. Alors Seb, pour nous, s'il te plaît, juste une petite photo suffira.
Comme d'habitude, les départs sont toujours très intenses, chargés en émotions au moment de quitter la terre, l'équipe, la famille. Et puis ensuite, intense sur l'eau avec les 138 bateaux, 137 autres bateaux à gérer sur la ligne de départ, les virements de bord, le placement, le timing. Et puis ensuite, la nuit très tactique le long de la Bretagne, là, aller se placer à la côte pour bénéficier du courant, des rotations de vent. Et puis voilà, toujours ce jeu sur la route, sur comment se positionner. Donc les stratégies commencent à se dessiner et c'est intéressant à suivre. Voilà, sinon tout va bien à bord. Ça se réchauffe un peu là cet après-midi, ça fait du bien parce que la nuit a été fraîche. Et voilà, auprès, ça océanique. Et ça va durer un petit bout de temps. Allez, bon après-midi, ciao ciao.
Jour 3. On comprend mieux maintenant pourquoi nous n'avons pas eu de photo du lever de soleil ce matin. L'animal était dans le Fromver, passage au sud de Wessan, bien connu pour ses courants vigoureux, jusqu'à 9 nœuds selon la marée. Les guides nautiques conseillent d'ailleurs aux plaisanciers d'y aventurer leur quille uniquement par beau temps. Mais visiblement, les coureurs, eux, ne lisent pas les guides nautiques qui donnent des conseils aux plaisanciers. Alors ils y vont, par 25 nœuds de vent, contre-courant, après une nuit sans sommeil à raser les cailloux. Seul, sur des bateaux de 18 mètres. 5 nœuds de courant qui s'opposent à 25 nœuds de vent, ça donne en gros 30 nœuds ressentis sur le bateau. Tout ça dans une marmite probablement secouée par le diable lui-même. Mais quel est l'abruti qui a demandé une photo de lever de soleil ce matin? Depuis, ça s'est un peu ordonné. Seb a gagné la pleine mer et les obstacles ne sont plus à craindre. Les vagues se sont peu à peu rangées, 4 virements de bord dans la journée, probablement un peu de repos, et certainement beaucoup de stratégies. Trouver le bon compromis pour passer le front dès cette nuit. Ainsi que celui de dimanche d'ailleurs. Anticiper le placement pour la suite. Seb doit être bien occupé dans ces conditions bien toniques. Pas certain qu'il ait le temps de profiter du froid qui pique et de l'humidité de la nuit. Un vrai bonheur en somme. Et pour les photos, eh bien pas grave, on attendra.
Ça y est, c'est parti, le grand large, la route du Rhum. 48 heures en mer, j'ai pris mes marques et voilà, tout à l'heure j'ai réalisé ça en zyotant une fois de plus l'écran de navigation et là il n'y avait plus un bateau autour, plus un bateau en AIS, plus un bateau en radar et ça y est, me v'là parti.
La stratégie de ce début de course est dictée par le passage des fronts liés aux dépressions qui circulent en Atlantique Nord. Un front est un conflit entre deux masses d'air de températures différentes qui génèrent une météo pas très agréable. À terre, on reste au coin de la cheminée. En mer, c'est une autre affaire. À l'approche du front, le ciel se charge. Le vent grimpe petit à petit. La pluie arrive avec ses nuages toujours plus bas et toujours plus gris. C'est le moment de réduire la toile avant les premières rafales qui peuvent être violentes. La mer, qui n'a pas le temps de se ranger, est assez désordonnée. Bref, c'est sérieux et ça peut durer quelques heures. Puis arrive de l'air un peu plus frais. Le vent vire franchement au nord-ouest en se calmant. En théorie. Le ciel se dégage et laisse même percer quelques rayons de soleil. C'est le bon moment pour virer de bord et pour mettre un peu de sud dans sa route. Même si la mer reste très désagréable, le ciel bleu participe au moral qui remonte en même temps que le baromètre. L'exemple du front demain matin est assez représentatif. Vent de sud-ouest en amont et vent de nord-ouest derrière. Ces derniers sont favorables et permettent aux coureurs d'accélérer, et qui plus est, dans la bonne direction. Les stratégies de passage de front sont une affaire de compromis. Compte tenu de son axe incliné, les bateaux les plus au nord toucheront les vents de nord-ouest avant les autres. Mais ils rencontreront aussi des conditions beaucoup plus difficiles, car la mer sera très grosse. Conditions dans lesquelles les bateaux à foils ne pourront pas nécessairement profiter de leur avantage en termes de vitesse. Ce n'est pas un hasard de voir les bateaux anciens, sans foil et solide, au nord, et les foilers au sud. Ces derniers cherchent une mer plate et un passage de front plus calme pour profiter de l'avantage de leur foil. À ces grandes lignes s'ajoute le placement en sortie de front vis-à-vis des systèmes météo qui suivent. Toujours essayer de prévoir le coup d'après. C'est vraiment un sport d'intello. Évidemment, les logiciels de navigation permettent de calculer la meilleure route en fonction des performances théoriques du bateau. Mais le sens marin reste primordial, car la route optimale, par définition, flirte avec les limites du bateau et le risque de casser du matériel est non négligeable. Et c'est encore les marins qui tranchent. Car ce qui est certain, c'est que pour gagner, eh bien, il faut d'abord arriver.
Et voilà, la vie du bord, quoi.
Jour 4. Sur la carte, les bateaux semblent bien proches. Sur l'eau, c'est différent. Plus de bateaux en vue. Le stress du départ est évacué. Les côtes bretonnes et ses nombreux rochers sont parés. Le golfe de Gascogne, avec ses cargos et ses pêcheurs, sont maintenant loin derrière. La vie du coureur solitaire s'installe à bord. Les dangers ne sont plus les autres, ni la terre. Le repos est meilleur et les repas plus chauds. Sepp peut même se permettre un brin de toilette. Il peut aussi se concentrer sur la stratégie des heures et des jours à venir. La routine, en quelque sorte. La majorité des Imoca continue sa route au sud-ouest, devant un premier front, derrière lequel une zone de vent très faible se résorbe peu à peu. Il faudra donc trouver le bon endroit et le bon moment pour le traverser, sans s'y faire piéger. Sepp reste bien au contact de la flotte avec un placement intelligent qui lui permet de garder la maîtrise du timing. Pour l'instant, les classements ne sont pas significatifs. L'écart latéral entre les bateaux embrouille un peu la lecture. La suite réserve à notre marin préféré quelques sujets de réflexion. Un deuxième front à traverser, puis trouver le moyen de se glisser sous l'anticyclone des Açores pour attraper les alizés. Sepp a sans doute sa petite idée sur le sujet, mais il reste encore quelques manœuvres avant le soleil des tropiques, car pour l'instant, par 43 degrés nord, eh bien c'est encore l'automne, avec ses bottes, ses polaires et ses cirés.
Donc là, je suis un peu en stand-by, prêt à dégainer, parce qu'en fait, derrière la masse nuageuse, le vent tourne d'un coup et il faut virer de bord. Donc il faut être prêt, parce que si on n'est pas prêt à temps, le risque c'est de partir avec le vent qui tourne et de ne pas être capable de virer de bord et de partir dans la mauvaise direction. Donc malgré le fait que les conditions soient engagées, eh ben, il faut être sur le pont, prêt à surveiller les paramètres, notamment la pression atmosphérique qui varie avec le passage du front. Voilà. Je vais me faire un petit café en attendant que, en laissant le temps passer pour que ce front arrive et qu'on vire de bord.
Jour 5. Des vents plus forts que prévu ont bien secoué la flotte cette nuit. Deux classes 40 ont dématé, un Ocean 50 a chaviré et un Imoca fait demi-tour. Autant vous dire que nous, on est bien sous la couette. Alors bravo à Sepp qui est toujours dans le jeu. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que tout n'est pas une histoire de performance de matériel. L'expérience des skippers, comme Sébastien, compte énormément dans la réussite de cette course.
Là, quand même, on a la chance d'avoir des couchers de soleil souvent très sympas. En voilà un qui est pas mal. Profitez de ces moments. Demain, les conditions vont changer.
Jour 6. Pour nous qui suivons cette route du Rhum, c'est toujours la même chose. Après chaque front, on regarde au sud en espérant y voir une porte de sortie pour notre marin favori. Celui de samedi a été bien costaud. Il a laissé des traces dans toutes les catégories. Dématage, chavirage, avarie. Et c'était quand même réconfortant de savoir que pour Seb, la journée de dimanche, eh bien, elle ressemblait à un dimanche. Et aujourd'hui, lundi, ce lundi, ressemble à un lundi. Retour au travail. Un virement en début de nuit et c'est reparti vers l'ouest. À la rencontre d'un front associé à une dépression très creuse et très mobile qui va balayer la deuxième moitié de la flotte dans la journée. Les premiers vont sans doute passer en dessous et entamer leur contournement de l'anticyclone. Pour les autres, ils vont devoir retourner au charbon et naviguer dans des conditions pas plus faciles que samedi dernier. Et notre Seb, toujours, y va sans état d'âme. Ces mots d'hier expriment autant la sérénité et la lucidité que le bonheur d'être en mer. Et en course, chapeau, car il y a fort à parier que notre début de semaine à nous soit bien plus tranquille au regard de celui de Seb.
La semaine commence, c'est une semaine qui s'annonce tonique là. La vie à bord est un peu compliquée. Même allongé dans le bateau, c'est compliqué. À force de taper, on avance, on sort de la manette.
Jour 7. Pour ceux qui trouvent que Virtual Regatta est un peu long comme jeu, imaginez la même prise de tête en rajoutant les courants, les bateaux de pêche, les cargos, la houle et les yeux au beurre noir. C'est une magnifique bagarre marine qui se joue sur nos cartographies dans nos canapés, mais surtout à l'horizon des alizés qui se profilent. Ne nous enflammons pas. Tanguy le Turquet sur Lazare est en très bonne position et sera difficile à aller chercher. Monoyeur et comme un seul homme sont en embuscade avec un positionnement plus sud qui cache leur classement réel. Enfin, la bagarre promet d'être longue jusqu'à Pointe-à-Pitre, avec Imagine de Conrad Coleman, qui a un positionnement similaire à celui de Sébastien. Ce qui est à noter, c'est la capacité de Seb à tenir un rythme identique à celui de bateau dont la vitesse pure est entre 4 et 7% plus élevée. Son positionnement lui laisse le choix de partir encore vers l'ouest, quand d'autres n'ont plus d'option. On peut aussi se réjouir de sa capacité à garder intact le potentiel de son bateau. Ce dernier point est d'ailleurs aussi à mettre au crédit toute son équipe. Quand on voit que jusqu'à maintenant, son seul souci a été une collision avec une sournoise télécommande de pilote, on ne peut qu'applaudir la qualité de leur travail. Il est intéressant de regarder la trace des bateaux. Elle en dit long sur l'état d'esprit et la compétence des skippers. Celle de Seb est magnifique. Elle est sobre et tendue à souhait. C'est le signe d'une attention de tous les instants pour une parfaite exploitation des bascules de vent. Il n'y a pas un mille en trop. La seule trace comparable de toute la flotte IMOCA est celle de Charlie Dalin. C'est dire. Et cette belle trace l'emmène à l'ouest, au vent de la flotte. C'est une position certes peu académique au moment d'aborder le contournement de l'anticyclone, car les coureurs préfèrent généralement rallonger un peu la route pour s'éloigner des calmes qui règnent en son centre. Mais comme cette course ne ressemble décidément à aucune autre, l'anticyclone des Açores a décidé, d'ici une vingtaine d'heures, de pousser sa dorsale, sa zone sans vent, jusqu'aux côtes africaines, bloquant ainsi la flotte sur toute sa largeur, hormis peut-être les premiers. Si ce scénario se confirme, alors il y a un coup à jouer pour les bateaux les plus à l'ouest, qui ont la route la plus courte. Sur la base d'un principe assez simple finalement. Quand il n'y a rien à contourner, on va tout droit et on croise les doigts.
Je suis en train de passer l'archipel des Açores. Et les conditions sont nettement améliorées et ça fait du bien. Déjà, il y a beaucoup moins de mer. Et puis, petit slalom entre essayer d'éviter les zones de vent faible liées aux îles des Açores et puis une zone de transition entre le vent qui va rebasculer à l'ouest-sud-ouest et puis là le vent qu'on a en ce moment au nord-ouest. Donc une nuit de réflexion, d'ajustage de trajectoire, de changement de voile potentiel, annulé parce que le vent forcit, tourne. Et donc une nuit bien occupée en fait, à pas dormir. Là j'ai une dizaine de milles jusqu'à mon waypoint que j'estime être un peu la sortie de l'influence des Açores et ensuite je pense que ça va se stabiliser un petit peu plus à gauche et plus stable en face. Voilà, et j'ai un peu de rangement à faire et puis besoin d'aller dormir. Mais je vous souhaite à tous un bon début de journée, salut!
Et voilà, 7 jours après le départ, nous laissons donc Seb en 16e position de la catégorie IMOCA. Rebondissement, émotion, performance, vous pourrez assister à la fin de cette course fantastique lors du prochain épisode que nous vous diffuserons vendredi prochain. D'ici là, si vous avez passé un bon moment, je vous propose d'aller écouter les autres épisodes de notre podcast et bien sûr, à le partager autour de vous.